8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins. Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravie de vous retrouver. 8 milliards de voisins se fixe aujourd'hui l'objectif de booster sa mémoire. Une émission qui s'adresse aussi bien aux étudiants qui préparent des examens, mais aussi à tous les autres, ceux qui veulent apprendre une langue étrangère, arrêter d'oublier la moitié des courses lorsqu'ils vont au marché, ou qui en ont assez de ne plus se souvenir des prénoms de ceux qu'ils croisent. Deux ingrédients essentiels. D'abord, une méthode adaptée. Il existe de nombreux procédés mémotechniques, mais ils ne correspondent pas à tout le monde et à tous les objectifs. On les décortiquera ensemble et on verra comment les choisir en fonction de son profil, car tous les cerveaux ne sont pas faits de la même façon. Et ensuite, eh bien, le travail, l'entraînement. Et oui, la mémoire, c'est un sport comme un autre et on ne sera pas médaillé olympique en restant assis sur son canapé. Avec nous en studio, un sportif, justement, Sébastien Martinez, ingénieur de formation, devenu champion de France de mémorisation, puis formateur dans ce domaine. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et avec nous également Hélène Weber, psychologue et formatrice. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice d'un petit livre à placer entre toutes les mains qui s'appelle Objectif mémoire, retenez et comprenez plus facilement tout ce que vous apprenez aux éditions Erol Poche. N'hésitez surtout pas à nous appeler pour poser vos questions ou nous partager vos astuces de mémorisation. Le numéro WhatsApp c'est le 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning, bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Mecha ce violo.
Buenos dias.
A quoi va les voisins et les voisines?
Et une première question posée par Dimitri qui nous écrit de Bangui. Est-ce que tout le monde peut arriver à mémoriser ou y a-t-il des gens qui ont des facilités et qui sont prédestinés à mieux retenir que d'autres? Alors cette idée qu'il y a effectivement des têtes bien faites et d'autres moins bien faites, Hélène Weber, c'est un mythe ou une réalité?
Je pense que c'est une réalité comme dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des personnes qui ont des prédispositions particulières, donc en mémoire, comme dans n'importe quel sport, pour faire une comparaison. Par contre, ce que je trouve, c'est que important de rappeler, c'est qu'on a tous la capacité de progresser. Et quel que soit son niveau de départ, et ça, je trouve, c'est très encourageant.
Sébastien Martinez, justement, vous, alors, lors de vos études d'ingénieur, vous n'étiez pas l'as de la mémoire que vous êtes aujourd'hui, je me trompe?
C'est ça, oh oui, clairement. Moi, j'ai toujours aimé comprendre. Moi, mon enjeu, en fait, mon levier d'apprentissage, c'était la compréhension. Et par rapport à la première question, je suis convaincu en fait qu'on peut tous apprendre. En fait, on a tous, à part pathologie évidemment, on a tous cette capacité au fond de nous d'apprendre ce que l'on veut. Mais la vraie différence entre les individus n'est pas tellement sur notre capacité à apprendre, mais sur le temps que l'on va vouloir investir dans différents domaines. Et c'est ça qui va vraiment nous différencier, parce qu'après, il y a des principes, il y a des stratégies qu'on va sûrement développer et qui vont faire de nous, on va dire, de super mémoire, si on peut dire comme ça. Et moi, c'est vrai qu'ingénieur, je détestais apprendre par cœur. C'était la compréhension qui m'animait. Et quand j'ai dû passer mon TOEIC, mon examen d'anglais, ben là, j'ai été confronté à un bel échec. Et je me suis dit, comment faire pour apprendre du vocabulaire?
Un examen d'anglais, voilà, où c'est une sorte de gros QCM, c'est ça?
Ouais, c'est un TOEIC, en fait. Le TOEIC, c'est un concours, enfin, un examen assez standardisé. Et du coup, je me suis posé la question, comment apprendre du vocabulaire? Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde de mémorisation et des stratégies que j'ai appliquées. J'ai vu qu'elles fonctionnaient. Et je pense que ce qu'on va voir après, et c'est vrai, c'est passionnant quoi, de voir qu'on est tous au fond de nous une sorte de génie de la mémoire.
Alors une autre question, cette fois qui nous vient d'un enseignant, Ghislain, il nous écrit de Cotonou au Bénin. Il a rencontré un problème similaire au vôtre, Hélène Weber. Je constate que j'ai beaucoup d'élèves victimes de l'oubli, dit-il. Quand ils sont évalués, ils n'arrivent pas à ressortir ce qu'ils ont appris alors qu'ils ont passé des heures à étudier. En tant que professeur, je me sens frustrée. Je veux qu'ils réussissent. Comment les aider à mieux retenir les cours? C'est un problème qui est récurrent chez bon nombre d'élèves. On passe des heures devant ses cours, on fait des fiches, on les accroche même partout dans sa maison, dans ses toilettes, même histoire de les voir très souvent et d'essayer de les mémoriser. Et une fois devant la copie, tout ça semble avoir disparu. Comment ça se fait?
Pour rebondir sur ce que disait Sébastien, c'est que d'abord, il faut avoir un projet quand on mémorise. Si on est dans une logique uniquement d'apprentissage par cœur, on risque d'utiliser uniquement ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est à différencier de la mémoire à long terme. C'est la première distinction, je pense, de base à avoir en tête. La mémoire à long terme, c'est ce qui nous permet de stocker des informations, parfois pour une durée indéterminée dans le temps.
Alors que la mémoire de travail, ça peut être toute une vie.
Alors que la mémoire de travail, c'est cette capacité à maintenir dans son esprit un certain nombre d'informations pour pouvoir les traiter. Pour prendre une image, c'est un peu la différence entre la mémoire vive et le disque dur d'un ordinateur. Si on, par exemple, si vous voulez retenir un numéro de téléphone et que vous le répétez plusieurs fois dans votre tête, il est très possible qu'une minute après, vous l'ayez complètement oublié, voire quasiment instantanément. Ça me fait faire un coup de vieux, là, parce que je me souviens quand on était dans les cabines téléphoniques et qu'on devait mémoriser assez rapidement un numéro de téléphone, que je l'oubliais systématiquement parce que la mémoire de travail, elle est limitée dans le temps et qu'il faut trouver des stratégies pour inscrire ce qu'on retient dans la mémoire à long terme. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir par rapport à cet enseignant, c'est que... mémoriser des informations brutes, ça ne suffit pas. Il faut, en général, on est peu évalué, surtout plus on gravit les échelons scolaires, sur notre capacité à restituer un savoir de manière brute. On est évalué dans notre capacité à construire une réflexion, à résoudre des problèmes. Et donc, il y a une étape supplémentaire à envisager pour être capable de stocker les informations d'une manière pertinente pour retrouver celle qui va nous être utile au moment où on va en avoir besoin face à un exercice à résoudre.
Donc il va falloir les appliquer, c'est ça ?
Les appliquer, envisager leur réutilisation et les organiser, non pas pour les lister dans sa tête et les noter comme une liste de choses qu'on aurait stockées de manière indifférenciée, mais vraiment les organiser en fonction des types de problèmes qui vont nous être posés dans le cadre d'un examen, par exemple.
Vous allez nous expliquer également tous les deux comment est-ce qu'on parvient à faire ça, mais d'abord, on va partir en RDC. Fernand nous appelle de Mboujimayi. Bonjour Fernand. Fernand, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, bonjour.
Bonjour Fernand. Alors vous êtes étudiant en sciences économiques, c'est ça ? Dites-nous, quel est votre problème, le problème que vous rencontrez, vous, dans vos études ?
Oh, d'accord, merci. En fait, lors de mes révisions, il y a toujours une chose qui me perturbe, c'est le sommeil. Donc, pour que j'arrive à lire les journaux, les notes de cours dont le contenu est couplé à la littérature, aux maths, à la statistique, à l'économétrie. Il me faut avant tout prendre un petit peu de temps pour dormir avant de soumettre ma mémoire à cet exercice. Mais quand je me réveille, je remarque que la concentration n'est toujours pas la même. Alors c'est pour cela que j'ai une question à poser à vos invités. Qu'est-ce qui pourrait certainement m'aider à tenir longuement avec la lecture, la révision, sans être tenté de dormir.
Ah, donc le problème de la concentration. Juste une petite précision, Fernand. Vous avez du mal à vous concentrer quand vous révisez ou quand vous êtes en cours au moment où vous recevez les informations de la part du professeur ?
Non, j'ai du mal à me concentrer une fois que j'ai dormi avant de lire.
Ah, quand vous venez de vous réveiller, en fait. Alors, Sébastien Martinez, vous qui avez été... étudiant le plus récemment, en tout cas qui est le plus récent étudiant d'entre nous trois.
Merci de le rappeler.
Je fais presque d'autres questions à lui poser sur le problème de concentration, surtout au réveil. Alors ça dépend si c'est de suite après le réveil, ben là c'est plus une question de... Enfin, première question, c'est est-ce que vous avez suffisamment dormi en fait ? Ou est-ce que c'est des nuits de 2 heures vous passez ? Ou est-ce que c'est des nuits où à la fin vous sentez en pleine forme ? Autre élément, c'est est-ce que avant de vous coucher, est-ce que vous avez pris quelconque type de psychotrope ? En fait, l'alimentation en fait est importante aussi pour quand on se réveille le lendemain. J'ai plein d'exemples d'élèves qui me disaient que ça n'a aucun impact sur leur mémoire, mais tout ce qui est alcool, cannabis, tout ça, ça a un impact. Mais ça, j'enlève on va dire les points on va dire de base. Et après, le matin, peut-être que c'était pas la première chose à faire d'apprendre le matin au réveil. Il peut y avoir des routines aussi pour se mettre en mouvement. D'aller marcher, de boire, enfin, de faire des choses qui nous mettent en éveil. Du coup, moi, sur le point peut-être que de mettre en vigilance, c'est en fonction de ce que tu as à apprendre, ça va demander pas le même niveau d'énergie. Donc, consacre dans ta journée, si tu n'es pas au courant, prends une feuille et déjà note à quel moment tu as une grande énergie, un autre moment où tu as moins d'énergie. Il y en a qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt du soir. Enfin, après manger, souvent, il y a une baisse d'énergie. Et place des activités qui te demande, enfin, où tu as le bon niveau d'énergie par rapport à l'intensité de l'exercice. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte.
Puis, Hélène Weber, vous souhaitiez réagir aussi.
J'avais peut-être une technique spécifique qui pouvait être utile en complément de tout ce que vient de dire Sébastien, qui est très juste. C'est une technique qui s'appelle la technique Pomodoro, qui a été inventé par un étudiant italien pendant que ses études de médecine et qui bon, pour certains étudiants, elle ne fonctionne pas, mais pour certains, ça a été une révélation. Donc peut-être que ce sera le cas pour notre auditeur.
Fernand. Mm-hmm.
En fait, il s'agit de chronométrer le temps qu'on passe à travailler et de se donner des contraintes en termes de temps à l'aide d'un timer. Ça s'appelle Pomodoro Tomate en italien. C'était la forme du timer de cuisine que l'étudiant en question utilisait. Mais bon, on peut utiliser un minuteur sur son téléphone ou autre. Il s'agit d'abord de préparer sa séquence de travail. C'est peut-être le plus important dans la méthode. Donc, de se donner un objectif, comme on disait tout à l'heure. Donc, de se donner des objectifs sur qu'est-ce que je vais faire avant même de m'y mettre. Ça aide à se centrer et à se concentrer, à focaliser son attention sur ses objectifs. Et ensuite, on chronomètre son temps de travail par séquence de 25 minutes. On se met le minuteur, 25 minutes de travail. Pendant ces 25 minutes, on ne fait que ça. Et au bout de 25 minutes, on remet le timer pour 5 minutes de pause. Et pendant ces 5 minutes de pause, on s'étire, on mange quelque chose, on fait un tour, on fait autre chose. Et ensuite, on reprend sur des séquences de 25 minutes et on alterne 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ça peut aider à structurer son temps et à focaliser son énergie et son attention.
Fernand, est-ce que ce conseil vous aide ?
Oui, justement, il m'aide. Merci beaucoup.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous souhaite une bonne journée, Fernand, et puis bon courage pour vos périodes de révision.
Sébastien Martinez. Peut-être rebondir sur ce qui a été dit. En fait, souvent, là, peut-être le problème de Fernand, c'est sur le sommeil. Mais comme disait Hélène au début, ce qui est important aussi, c'est de connaître comment on fonctionne, en fait, notamment la mémoire. Et on sait que pour pouvoir mémoriser, moi, j'aime bien le modéliser en trois étapes importantes. Un, donc on parle de la mémoire à court terme. Donc là, on est d'accord. Et pour rentrer dans le court terme, on a besoin d'être attentif. Et c'est là où, je pense, son problème peut être ciblé. Mais ce n'est pas tout, en fait. Une fois qu'on est dans le court terme, il faut rentrer dans la mémoire à long terme. Et là, on a besoin d'encoder. Alors moi, j'aime bien plutôt utiliser la notion d'associer. On va venir avec des exemples d'associations. Mais après, ce n'est pas tout. Une fois qu'on est rentré dans le long terme, on a besoin de le garder dans le long terme. Et là, on a besoin de s'entraîner, répéter. Donc, par rapport à Fernand, je pense que là, ce qui a été soulevé, c'est sur l'attention. Mais souvent, c'est multifactoriel. Donc, il faudrait peut-être un peu fouiller. Donc, peut-être, j'ai envie de lire le livre d'Hélène ou d'autres ouvrages sur le sujet.
D'autres ouvrages sur le sujet. Nous sommes en ligne également avec Cécilia. Elle nous appelle de Franceville, au Gabon. Bonjour, Cécilia.
Bonjour les voisins, les voisines.
Bonjour Cécilia. Bonjour. Dites-nous, alors Cécilia, vous êtes dans un cas un petit peu particulier puisque vous avez des petits problèmes de mémoire, liés à un accident de la circulation, c'est ça ?
Oui, exactement.
Racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé et en quoi ça se manifeste aujourd'hui ?
J'ai été accidentée par une voiture en 2008 à Dakar et... Au sorti de là, j'ai vu des médecins qui m'ont dit que pour garder la mémoire, il faut rester loin des baffles, qui émettent la musique.
D'accord.
Ils m'ont demandé aussi de ne jamais veiller jusqu'au matin, de dormir. Ils m'ont demandé aussi de ne pas boire de café noir. De ne pas boire certaines substances et de rester vraiment jovial, chercher à rester jovial. Ce qui fait que c'est comme si, après cet accident, une partie de ma mémoire a été oubliée. Ça veut dire que ce que j'ai vécu au primaire, au lycée, et un peu certains cours à l'université, c'est comme s'il y avait que des flashs qui restaient.
D'accord, donc vous avez toute une série, on s'en doute évidemment, de contraintes suite à cet accident, je suppose, pour vous permettre aussi d'aller mieux, de reprendre... de bonnes habitudes de mémoire. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez du mal à retenir certaines choses ? Quelle est la question que vous souhaiteriez poser à Hélène Weber ou Sébastien Martinez à ce sujet ?
La question, c'est que parfois, je discute avec quelqu'un et que je fais sortir certaines paroles. Et moi, j'oublie que j'ai fait sortir certaines paroles. Et la personne avec qui j'ai parlé me dit « Tu m'as dit ceci, c'est là ». Et j'ai dit « Non, moi, je ne me rappelle plus ».
D'accord.
Et c'était il y a combien de temps ?
C'était en 2008, je crois. C'est ça, Cécilia ?
Oui, c'était en 2008.
Non, mais quand les personnes vous disent... Vous m'avez dit ça à tel moment, mais c'était juste 5 minutes avant ou c'était il y a 5 ans dans cette discussion ?
Non, imaginez-vous que j'ai eu, par exemple, une discussion il y a une semaine. J'étais peut-être mécontente face à un ami qui m'a peut-être trahi. Et là, j'arrive chez l'ami, je prends le courage, j'arrive chez l'ami, je lui fais comprendre que je n'étais pas d'accord, voilà, voilà, voilà. Et en parlant, il y a des choses que je dis et que quand je repars, et quand il me voit calmement, il me dit, ben, mais tu as eu à me dire ceci, c'est là, ceci, c'est là. Je dis, mais je ne me rappelle plus parce que je ne suis pas capable de dire ceci, c'est là. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est lui qui ment ou c'est moi qui ai oublié réellement ce que j'ai eu à dire?
Alors, évidemment, Cécilia, on ne pourra pas se prononcer médicalement. En revanche, ça a l'air d'être assez lié aux émotions, ou je me trompe peut-être,
oui,
Hélène Weber.
Alors, moi, c'est vrai que je vous disais que j'étais psychologue tout à l'heure. Je fais de la formation, de l'accompagnement pédagogique, mais je suis aussi psychothérapeute, psychologue clinicienne avec des patients. Et c'est vrai que, comme disait Sébastien tout à l'heure, la question de la mémoire, c'est vraiment une question multifactorielle. Il y a beaucoup de choses qui ont un impact sur notre capacité à nous souvenir des informations. Et là, Cécilia, vous rapportez, vous donnez un exemple d'une discussion qui vous a particulièrement touchée d'un point de vue émotionnel, et que les émotions et la façon dont on peut se représenter les relations qu'on a avec les autres et les contrariétés aussi qui surviennent peuvent nous amener à ne plus se souvenir ou à reformer des souvenirs différemment de la façon dont ils ont été dans la réalité au départ. Voilà, donc il n'y a pas forcément un défaut de mémoire, mais simplement un fonctionnement du cerveau qui a tendance à mettre de côté certaines informations parce que d'un point de vue émotionnel, ça l'arrange, on va dire.
Est-ce que vous avez des...
En fait, Quand j'essaie un peu de parler, il y a eu un défaut de mémoire. Pourquoi ? Parce que quand j'étais au collège, on avait un système d'études qu'on appelait par cœur. Donc tu es obligé de mettre toute la leçon dans la tête pour que quand on va te poser les questions de voir, tu vas restituer. Mais ce qui était bizarre, c'est que quand tu oublies un seul mot, toute la leçon est partie.
Oui.
Voilà.
Oui, parce que c'est
pas...
C'est très clair. Alors là, vous parlez d'un problème qui précède votre accident, mais effectivement, quand on mémorise par cœur, de manière linéaire, les informations les unes à la suite des autres, on a tendance à créer des liens logiques qui sont tributaires de cet ordre dans lequel on a stocké les informations. C'est-à-dire que s'il y a un élément qui est plus là, comme quand on mémorise une poésie et que tout d'un coup on bute sur un vers, on n'a pas, si on a utilisé que cette technique-là pour mémoriser, se répéter encore et encore les informations dans un ordre précis, dès que quelque chose bute, dès qu'il y a un grain de sable qui arrive dans la machine, tout est perdu.
Comme si on avait loupé la marche d'un escalier, puis ben on dégringole, on peut plus.
Exactement.
On a par exemple des enfants en Afrique qui retiennent plus les programmes français que les programmes africains, ce qui fait que dans leur tête, ils ont la peau noire, mais ils sont franconisés. On a par exemple des enfants, moi par exemple depuis petite, je connais la Marseillaise, pourtant je ne suis pas française, ce qui fait que je suis plus liée comme à la France qu'à mon pays. Donc ce qui fait que la mémoire s'attache parfois à un autre pays, à une autre nationalité, à un autre continent qu'à ton continent. Tu vis comme une Européenne.
Là, vous soulevez, Cécilia, là, vous soulevez le problème aussi des programmes scolaires, de la diversité des programmes scolaires et de l'adaptation des programmes scolaires aussi.
Oui, oui.
C'est un autre sujet. Oui. Sébastien Martinez, vous souhaitiez dire quelque chose?
Oui, il y a trois points. Le dernier point, notamment, vous soulevez le point important que la mémoire fait partie aussi de notre identité. Et des fois, pour collaborer avec par exemple Philippe Amouyel qui sur la fondation Alzheimer, il nous parle de ça aussi sur, en fait, quand on perd notre mémoire, on perd une forme de notre identité. Donc apprendre à mémoriser aussi, c'est à construire une forme d'identité. Après, pour revenir sur les deux premiers points, quand vous avez parlé de votre problème d'interaction avec d'autres personnes, j'ai souvent des personnes en formation qui me partagent le même problème et qui n'ont pas eu d'accident comme vous. Donc pour moi, ça me surprend pas quand vous parlez de cette difficulté. C'est pas si, pour moi, c'est pas un problème de mémorisation. Donc, vous pouvez vous rassurer. Après, il peut y avoir des exercices pour vous amuser à vous sentir plus à l'aise avec votre mémoire. Et après, la notion de par cœur, on pourrait en parler des heures. Moi, j'adore ça.
Notion de par cœur, justement, on va en parler. Cécilia, j'espère qu'on a répondu à votre question. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelés. Et puis, on vous souhaite une bonne journée au Gabon. On a au téléphone un auditeur de N'Djamena au Tchad. C'est Armat. Bonjour, Armat.
Bonjour, madame.
Alors Armad, vous n'êtes plus étudiant, mais vous avez développé votre propre méthode de mémorisation. Et par rapport à ce que disait Cécilia juste avant, vous, le par cœur, ça n'a jamais fonctionné. Vous avez rapidement compris qu'il fallait mémoriser autrement. Racontez-nous.
Ouais, moi, je n'ai jamais eu de difficulté à retenir les cours, par exemple. Mes parents m'ont très tôt inscrit à l'école coranique. J'avais à l'âge de 4 ans à 5 ans, je veux dire. Le fait d'apprendre et réciter les versets et sourates m'a permis de bien simuler ma mémoire. Donc, j'étais en étude de littérature, je n'avais pas de difficulté à retenir les notions, les cours ou les citations. Contrairement aux autres élèves qui apprennent mécaniquement pendant des heures, moi, je préférais comprendre les sujets et les retenir avec mes propres mots en utilisant des synonymes, par exemple. C'est ça.
D'accord. Donc, vous reformuliez, si j'ai bien compris, Armat, les notions que vous appreniez. Hélène Weber, ça s'applique au cours également, cette méthode. Bon, Armat, il n'est plus étudiant, mais comment ça fonctionne, le fait de reformuler dans le cerveau? Quelle technique, en fait, ça...
En fait, en faisant ça, on s'appuie sur une des mémoires à long terme qui s'appelle la mémoire sémantique, qui est la capacité à mémoriser des notions et des concepts abstraits. Et c'est une mémoire qui est très persistante dans le temps. Et donc, ce travail de reformulation, de reconceptualisation, c'est-à-dire de partir du concret pour aller vers l'abstrait, pour trouver des ressemblances, des similitudes, faire des associations, comme Sébastien en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une gymnastique qui favorise l'inscription des informations dans la mémoire à long terme. Et c'est très pertinent.
J'ai une question aussi pour vous, Armat. Ça vous servait bien sûr pendant vos études, mais est-ce qu'aujourd'hui, par la suite, dans votre vie de tous les jours, cette méthode-là, vous en sentez le bénéfice?
Oui, je continue toujours à bénéficier de ma méthodologie d'avant. Toujours la même chose, je continue.
C'est vrai que...
Dans n'importe quelle situation, je continue.
Oui, on peut se demander le fait de comprendre, de prendre le temps de comprendre, ça sert évidemment pendant les cours, mais finalement, quand on intègre une méthode de travail à l'école, c'est bénéfique pour toute la vie au niveau de la mémoire, Sébastien Martinez.
Une méthode de travail sert à apprendre, enfin, en tout cas, moi, dans mon univers
méthode de
mémorisation. Quoi. Mmh. Mais après... Souvent, j'ai plein d'élèves qui veulent faire plutôt de la compétition, comme des concours de médecine, des études un peu exigeantes. Une bonne méthode de travail, elle évolue au cours du temps. Elle n'est pas figée. Et même à 80 ans, on développe encore une capacité à apprendre en pouvant se remettre en question et en apprenant de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment un point hyper important.
On va continuer. Merci beaucoup, Armat, de nous avoir partagé votre méthode. On vous souhaite une bonne journée, Anne Jamena. On va continuer notre discussion dans quelques instants, mais d'abord, petite escale musicale funky avec Guts et le duo Jojoa et Lieutenant Nicholson. Dansons cadencé, c'est tout de suite sur RFI.
Comme c'est bon, danser sur une chanson, tant qu'elle ne s'arrête pas, continuons de danser.
Ah, ça c'est bon.
Comme c'est bon, chanter tout en dansant, continuons de chanter tout en enchaînant les pas.
Ah, ça c'est bon.
Dinata
flingue et se dit go.
Petit pas de cœur danser, c'est déjà bien entendu. C'est parfait pour danser et tout décadenasser. C'est cha 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 en diable. Danser sans fin, c'est censé. La guaracha, ok. Si t'es KO, c'est ça, ça.
Vous écoutez 8 milliards de voisins sur RFI et aujourd'hui on décortique les meilleures méthodes pour booster sa mémoire. Nous sommes en compagnie d'Hélène Weber, formatrice et psychologue, et de Sébastien Martinez, formateur lui aussi et ancien champion de France de mémorisation. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas pour leur poser vos questions. Le numéro WhatsApp c'est le 33 7 64 45 51 41. Hélène Weber, j'ai une question pour vous. Lamine nous écrit de Zinguinchor au Sénégal. Il nous dit « Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais j'ai de plus en plus de mal à retenir les noms. Il m'arrive parfois d'oublier le nom de mes collègues au travail. » Vous, qui avez enseigné Hélène Weber et qui voyez défiler chaque année des centaines de nouveaux élèves dans vos classes, quelle méthode est-ce que vous avez mis en place pour vous souvenir de leurs prénoms ?
Alors, j'en ai mis beaucoup en place parce que c'est un enjeu important pour que chacun se sente bien dans le groupe et puis que même dans nos relations avec les autres, d'une manière générale, se souvenir du prénom, c'est quand même essentiel. Le grand principe à appliquer concernant la mémorisation des prénoms associés au visage, c'est les associations.
Donc, qu'est-ce que c'est les associations ?
Associer des éléments, en général visuels, au prénom en question. Alors, j'ai relu mon livre récemment pour me remettre en tête un peu tout ce que j'avais dit dedans, parce que j'ai besoin aussi de réactiver les informations pour m'en souvenir parfois. Et du coup, l'exemple qui me vient est un peu morbide, mais vous voyez, parce qu'il est tellement marquant que ça m'a marqué. J'avais une étudiante avec des longs cheveux blonds. Et en fait, j'imaginais ses cheveux prendre feu. Que ça me faisait penser à Jeanne d'Arc et son prénom c'était Jeanne. Et donc c'est
effectivement voyez, c'est pas le, c'est, l'exemple c'est,
voilà,
plus joyeux.
Voilà ce dont je me souviens. C'est bien glauque, mais en même temps je m'en rappelle. Donc parfois c'est les lunettes, une particularité des cheveux, les yeux, la couleur des yeux, qui va par association. Il faut trouver un lien associatif entre le prénom.
On va penser à une tomate si quelqu'un s'appelle Thomas par exemple.
Par exemple, mais alors il faut ensuite former une image dans sa tête qui associe le visage de la personne avec une tomate, donc quelque chose d'un peu drôle, de surprenant, par exemple une tomate qui s'écrase sur sa tête et qui dégouline. Donc quand je vais le voir, je vais revoir cette image de tomate qui s'écrase sur sa tête, ça va me faire penser donc à Thomas.
Mais tomate par association. Pourquoi le cerveau fonctionne de cette façon ? Pourquoi est-ce qu'il faut des histoires farfelues pour se souvenir de quelque chose, Sébastien Martinez ?
Je peux rebondir déjà sur l'aspect visage, parce que c'est une épreuve des championnats du monde, de France de mémoire, où il faut mémoriser un maximum de visages associés à leur prénom et nom. Et pour donner des ordres de grandeur, il y a une épreuve en compétition, il y a 30 visages avec des prénoms, il faut le mémoriser le plus rapidement
possible. C'est des célébrités ou des inconnus ?
Non, des inconnus complets. D'accord. Et ce n'est pas leur vrai prénom, c'est pour pas qu'il y ait de connaissances au préalable. Et le record du monde sur cette épreuve, c'est autour c'est 36 secondes. Pour mémoriser 30 visages avec leur prénom. Donc ça va très vite. Donc on peut mémoriser rapidement des visages. Alors moi, j'ai toujours été très mauvais avant. Ça fait quelques années, maintenant, je n'ai plus le record de France. Mais maintenant, j'ai quand même. Je m'entraîne sur cette épreuve. Et comme le disait justement Hélène, c'est. En fait, déjà avant de rentrer dans la situation, il faut en avoir envie, il faut être attentif. Parce que souvent, j'ai trop de personnes qui arrivent qui disent mais on n'écoute pas en fait le prénom de la personne. Donc forcément, on va pas le retenir.
C'est presque une formalité de demander et puis on retient pas ce qu'on nous dit.
Et il y en a qui disent, de toute façon, je vais pas le retenir, du coup, j'écoute même pas. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà d'en avoir envie et de mettre de l'attention. Et ne faites que le répéter au cours de la conversation, le prénom de la personne. Donc ça, c'est, on va dire, le préalable de l'attention. Deux, après, d'associer. Donc là, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter là-dessus. C'est à part d'associer le prénom aussi, d'associer le visage de la personne.
T'as un exemple, toi, d'une image que tu as conçue ?
Moi, d'exemples de... Quand je suis sur des visages de personnes, je joue beaucoup avec des détails, soit avec le nez, soit avec les oreilles, soit les cheveux. J'ai des zones géographiques, du visage, et j'amplifie. Par exemple, le nez, bah, ça peut, il peut facilement avoir un grand nez associé à Pinocchio, du coup. Et du coup, Thomas, pareil, c'est une tomate, donc je mets une tomate au bout du nez. Ou si des oreilles, il peut avoir... Alors, ça peut être des pendentifs aussi, ça peut être des associations éphémères. Et enfin, dernière étape, c'est pas tout de retenir le prénom ou le nom pendant l'heure qui vient, mais si on veut le retenir durablement, il faut le réactiver, il faut le répéter. J'ai un exemple d'un de mes élèves, enfin, c'est un enseignant dans un collège, et lui, il a mémorisé au début d'année les 200 sixièmes qu'il avait, il était responsable des 200 élèves, des sixièmes, et il m'expliquait qu'il avait impressionné tout le monde parce que juste avant la rentrée, ça lui a pris une petite semaine, il a regardé le trombinoscope, il a fait ses associations. Et les trois premiers jours, il n'était pas hyper à l'aise, mais au bout de 3 jours, il connaissait les 200 élèves. Et ça a bluffé vraiment tout le monde.
C'est incroyable.
Et ça met en place une relation avec les élèves qui est de tellement meilleure qualité. Quand les élèves se sentent accueillis individuellement, ça crée une relation qui est propice à l'apprentissage, du coup, pour le reste. Parce que ça revient au premier point que Sébastien disait tout à l'heure, à savoir, ça donne envie. Ça fait qu'on est présent, attentif. Et qu'on focalise son attention, comme l'auditeur disait que c'était sa difficulté tout à l'heure, c'est le préalable. En avoir envie, se poser. Je me souviens que j'ai créé des ateliers pour accompagner les étudiants quand j'étais en école d'ingénieur. Et au bout d'un moment, j'avais beau me concentrer sur l'apprentissage, l'organisation. Et il y a un étudiant qui m'a dit, madame, il faut que vous nous fassiez un atelier sur la motivation. Et donc, j'ai dû concevoir des éléments spécifiques qui concernaient la motivation et l'engagement.
On va écouter tout de suite d'autres questions de nos auditeurs.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija depuis Touba. Bah, moi, quand j'étais au lycée, surtout en terminale, j'avais vraiment du mal à me concentrer, surtout à cause du stress des examens finaux qui m'ont causé des crises d'angoisse et tout. C'était carrément dur de rester concentré car il y avait trop d'examens et de leçons et des devoirs à faire et tout. Il y avait tellement de travail que c'était trop accumulé pour moi. Je ne pouvais plus réfléchir, j'étais stressée tout le temps et tout. Et pour les faire, j'étais obligée de veiller pendant la nuit pour réviser en buvant du café et jusqu'à en devenir malade. J'ai dû m'absenter 2 mois d'école pour mieux m'organiser et préparer un emploi du temps spécifique qui m'a vraiment aidé à terminer mon année scolaire en décrochant mon bac avec mon mention et tout. Merci.
Khadija, donc, qui pose la question de la gestion du stress et de la mémoire. Sébastien Martinez, comment est-ce que le stress peut anéantir les efforts de mémorisation?
Oui, alors là même, c'est même encore plus global que le stress. C'est la conséquence, le stress, là, ce que j'ai compris.
Oui, exactement. Et l'angoisse qui en découle.
Alors déjà, par rapport au stress, si vous venez à une compétition, vous verrez que c'est votre meilleur ennemi, en fait, le stress. Parce que tous les scores que vous faites à la maison, en général, la première compétition, vous êtes nettement moins bon. Parce qu'il y a cette notion où vous n'avez pas l'habitude d'être dans une salle avec des dizaines de personnes. Donc, il y a une sorte de tension, en fait. Donc le stress est clairement très mauvais pour notre capacité à mémoriser.
C'est ce qui se passe quand on arrive à un examen, l'examen du bac, par exemple. Mais très impressionné, un univers qu'on ne connaît pas.
Du coup, on peut travailler, du coup, limiter cet impact du stress. Alors, moi, j'ai tendance à donner deux facteurs, on va dire, deux pistes de travail. Un, il y a clairement tout ce qui est technique de régulation émotionnelle. Donc, ça peut être autour de la respiration, sophrologie, méditation. Enfin, il y a pléthore de méthodes qui me permettent de se calmer d'un point de vue émotionnel. Et après, il y a d'un point de vue plutôt, on va dire, pragmatique de travail. Là, quand elle donnait des exemples, elle n'arrivait plus à... Du coup, elle veillait, elle dormait tard. Enfin, elle dormait peu, en fait, elle couchait tard. Donc forcément, on engrange un cercle vicieux où elle dort moins bien, elle est moins attentive, elle consolide moins ses informations au jour le jour. Donc il y a une méthode de travail à peaufiner. Et c'est vrai que si on s'y prend qu'en terminale et qu'au bout d'un moment, quand on rentre dans ce cercle vicieux, ça peut être dur de s'en sortir tout seul, quoi. D'être un peu accompagné et faire point après point, quoi.
Et le café ?
Alors, aujourd'hui,
les étudiants se mettent à boire du café en pensant que le cerveau va mieux fonctionner, plus vite, on va rester réveillé tard.
Alors moi, les études que j'ai là-dessus, c'est boire du café, ça a un impact uniquement quand vous faites une activité à charge cognitive assez faible.
C'est-à-dire
quand vous faites quelque chose en mode automatique, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de
faire la vaisselle.
Quelque chose qui ne vous demande pas beaucoup d'énergie attentionnelle, le café a un impact. On se sent plus éveillé, plus attentif, tout ça. Par contre, si vous faites une activité qui a une forte intensité attentionnelle, et typiquement apprendre. Ça fait partie, le café n'a aucun impact. Vaut mieux dormir, en fait, pour le coup.
Alors, un autre message d'auditeur tout de suite.
Et bonjour à 8 milliards de voisins. Moi, je suis Ben, étudiant en deuxième année de licence en lettres. Vous voyez bien qu'en lettres, nous avons des cours de littérature, des cours qui nécessitent la compréhension et la maîtrise. Et vous voyez, lorsqu'on intègre les cours en caractère mathématique, comme la comptabilité, l'économie, cela cause assez de problèmes pour nous. Et j'ai beaucoup de mal avec ces cours, notamment pour retenir les données chiffrées. Comment alors puis-je améliorer mes capacités d'apprendre dans un domaine que je ne maîtrise pas ou qui n'est pas le mien?
Alors, une question pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Hélène Weber, d'abord, juste avant de répondre à Ben, est-ce qu'il y aurait des cerveaux plutôt littéraires et des cerveaux plutôt matheux, des cerveaux à chiffres?
J'ai envie de dire, je n'ai pas d'études là-dessus, mais j'imagine que oui, on a des appétences, on a une motivation. On a vu l'importance de la motivation et de l'engagement pour tout ce qui est apprentissage et mémorisation. Donc forcément, on a des affinités avec certaines disciplines plutôt que d'autres. Et que ce qui est sûr, c'est quand on a un niveau d'énergie qui ne varie pas, il faut à la fois apprendre ce dont il est question, ce qui demande déjà de l'implication et de l'énergie, mais quand il faut en plus lutter contre le fait qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie de faire, ça demande encore plus d'énergie. Donc il faut trouver des stratégies. Parfois, le fait d'avoir des stratégies de travail qui amusent, plus amusantes que le fait de relire ses cours, eh ben, ça peut être une source de motivation. Et donc, pour une problématique comme celle que l'étudiant vient, voilà, j'avais envie de proposer une première technique. Déjà, de différencier les types de fiches de révision qu'on fait. Apparemment, l'étudiant n'a pas du tout de difficulté à s'impliquer dans les matières littéraires parce qu'il aime ça et que du coup, ça s'inscrit facilement dans sa mémoire. Par contre, quand il est rebuté par le contenu, il faut trouver d'autres stratégies en sciences, notamment
en compta, ici en l'occurrence. Ouais.
Souvent, on demande aux étudiants de savoir faire quelque chose, d'être capable de résoudre un type de calcul ou une problématique spécifique. Et là, j'invite les étudiants à non pas faire des fiches contenues qui viseraient à mémoriser le cours de manière directe, mais des fiches méthode, c'est-à-dire repérer quel est l'outil qu'on me demande d'être capable d'appliquer et trouver une fiche qui donne la définition de l'outil, à quoi il sert et comment l'utiliser. Vraiment pas à pas le mode d'emploi, parce que beaucoup d'étudiants ont tendance à mémoriser en refaisant des exercices, à apprendre en refaisant des exercices. Sauf qu'un exercice, ça n'est jamais qu'un cas particulier d'une règle plus générale qu'on me demande d'intégrer. Et le problème, c'est que quand je suis face à l'examen, si je tombe sur un exercice qui ressemble à un exercice sur lequel je me suis entraînée, je vais être capable de plaquer ma méthode de résolution. Mais si je tombe face à un exercice différent, où les choses sont amenées différemment, et il faut que je sois capable d'utiliser des notions qui sont dans le cours, mais pour lesquelles je ne me suis pas entraînée de manière plaquée par un exercice spécifique, je vais être complètement perdue. Alors que si j'ai fait des fiches méthodes, à ce moment-là, je vais pouvoir trouver, faire des liens entre les outils qui sont à ma disposition dans ma boîte à outils et le type de problème, quelle que soit la façon dont il est posé.
Autre méthode aussi dont vous nous parlez dans ce livre, c'est l'une des premières d'ailleurs, et je pense à ça parce qu'on parle de chiffres et de comptabilité. Vous nous donnez une espèce de formule magique pour apprendre une formule mathématique, justement. Alors moi, qui n'ai pas fait d'études de mathématiques, j'avais peine vraiment à déchiffrer. C'était une fonction, c'est ça?
C'était la définition d'une limite.
Voilà, la définition d'une limite, super. Très compliqué. Et vous nous donnez une méthode simple pour...
Que je déconseille après, parce qu'on n'y comprend rien finalement. Oui, c'est ça. C'est une méthode qui permet de mémoriser la formule, mais pas de la comprendre. Et du coup, d'être capable de la réciter, sauf qu'une formule mathématique, on nous demande rarement de simplement la réciter. On nous demande d'être capable de l'utiliser dans le cadre d'un exercice ou d'un problème qui est posé. D'où l'importance de donner du sens à chacun. À chacun des éléments qui composent la formule, de comprendre ses conditions d'application et la façon dont il faut conclure en fonction du résultat qu'on obtient pour avoir une vue large et de pouvoir emporter cette connaissance pour qu'elle nous soit vraiment utile en situation.
Sébastien Martinez, une question langue étrangère pour vous. André nous écrit de Kinshasa, il nous dit « Comment mémoriser du vocabulaire en langue étrangère ? Donc, je n'arrive pas à apprendre mais verbes irréguliers en anglais, je trouve ça plus difficile. Alors ça, les listes de verbes irréguliers qui sont à la fin du manuel, vous
oui,
savez, dans le...
je vois bien.
Cet énorme tableau.
Je vois bien. Surtout que j'ai fait un tuto là, dernièrement sur, là-dessus.
Ouais, que, donc, comment on fait ?
Donc en fait, le... ce qu'il faut voir déjà pour apprendre du vocabulaire, avant d'aller sur les verbes irréguliers, parce que la difficulté des verbes irréguliers, c'est qu'il y a quatre composantes. Tu as une traduction, base verbale, prétérite et participe passé. Donc il y a quatre éléments à retenir. Be, was, been, être. Voilà pour, et, mais juste si on prend quelque chose de plus simple, c'est juste du vocabulaire où il y a un mot, il y a une traduction. Si, moi j'aime bien donner ce mot en hindi, parce que j'ai vécu une année en Inde. En hindi, le mot baya, ça veut dire un frère de sang. Et donc quand tu entends ce mot baya, tu n'as jamais entendu. Enfin, tu n'as aucune famille de langue avec ce l'hindi. Donc tu dis bah, à quoi ça peut me faire penser. Donc faire une association. Donc baya, on peut penser, il y en a qui me disent bah, je pense à quelqu'un qui baille. À Maya l'abeille, à une plage, dès qu'il me dit la plage, je ne sais pas pourquoi, mais. Donc, on prend cette première référence, et après, on fait pareil avec frère. Si vous avez un frère, je ne sais pas si vous avez un frère.
J'ai un frère.
Un frère. Donc, imagine ton frère, du coup, et qui est là, sur la plage, et qui est en train de bailler. Et le fait d'avoir fait cette association, ça permet de le faire rentrer, on va dire, dans le mémoire à long terme. Mais après, ce n'est pas fini. Si on veut le garder, il va falloir s'entraîner et le répéter, le réutiliser. Et pour donner des ordres de grandeur, apprendre du vocabulaire comme ça, j'ai un élève, il s'est amusé en un mois, il a appris 500 mots de vocabulaire. Ça lui a pris 30 minutes par jour. Alors, ça a un impact sur ses notes, sur sa capacité à parler l'anglais, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Apprendre du vocabulaire, c'est bien, mais voilà, c'est une étape intermédiaire sur le processus. Et donc, pour revenir à la question quand même sur les verbes irréguliers, moi, le conseil que je lui donnerais, c'est phase 1, c'est déjà ne pas tout mémoriser, c'est prendre juste vocabulaire, enfin, le mot en anglais... et le mot en français, base verbale, et le mot en français, et faire cette histoire. Une fois qu'il a fait ça, après, il va voir qu'il y a certains mots qui vont lui revenir naturellement, et après, s'il lui manque des autres parties, il peut compléter son histoire en se faisant une histoire complète.
Hélène Weber ?
Ce que répète souvent Sébastien depuis tout à l'heure, qui est vraiment important, c'est l'importance de répéter. Il ne s'agit pas simplement de mémoriser en one shot, en une fois, mais de réactiver les informations. En fait,
c'est un autre principe de la mémoire.
C'est un autre grand principe du fonctionnement de la mémoire, c'est ce qui s'appelle la plasticité cérébrale. Plus vous réactivez une information, plus les connexions entre les cellules du cerveau qui s'appellent les neurones, les connexions, donc les synapses, ce qu'on appelle les connexions synaptiques, se renforcent. Si vous n'utilisez plus une information, elles s'affaiblissent jusqu'à disparaître. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Donc du coup, plus vous allez réactiver une information le lendemain, une semaine plus tard, un mois plus tard, trois mois plus tard, mais plus vous allez réactiver. C'est pour ça que les enseignants sont si bons, puisqu'ils répètent leurs cours. Tous les ans, ils répètent leurs cours et ils le retransmettent. Et bien, ça sert de réactivation, ce qui fait qu'ensuite, la formation est très facilement accessible.
Et alors, une question justement qui découle un petit peu de ça. Ndak nous écrit de Dakar, elle nous demande « Au troisième âge, on rencontre beaucoup de problèmes de mémoire. Comment faire pour la travailler? Avec quels exercices ?» Est-ce qu'il y a des exercices liés à l'âge, Hélène Weber?
Il y en a plein. Il y a des activités de mémoire dans les maisons de retraite qui sont organisées. Moi, j'ai une petite technique.
Je ne sais pas si Ndak est en maison de retraite, mais...
Oui. Alors, je propose une technique qui s'appelle la technique des flashcards, qui est très utile pour les étudiants, mais aussi pour tout un chacun. Dans l'apprentissage des langues, c'est aussi très utile. Ça s'appuie à la fois sur le lien associatif entre les informations et sur le principe de réactivation, le fait qu'il faut créer des liens et qu'il faut réactiver. Pour ça, vous prenez le plus simple, c'est de prendre une feuille A4, de la couper en 8, et sur le recto d'une feuille, noter une information, et de noter l'information associée sur le verso de la feuille. Par exemple, verbe être en anglais, to be de l'autre côté. Et ensuite, on réactive et on se teste.
Ou bien un prénom et une date de naissance pour oublier les
anniversaires. Exactement, un prénom, une date de naissance.
Ou un numéro de téléphone.
Une date, un événement historique, une question, sa réponse, un concept, sa définition, une formule mathématique, ses conditions d'utilisation. Ouais. Voilà. Et donc ensuite, c'est très. Une fois que vous avez votre paquet de cartes, il y a aussi maintenant des applications en ligne qui permettent de le faire sous version numérique. Et ben, vous pouvez réviser le soir avant de vous endormir, le matin dans le bus, avant un examen, entre deux cours, entre amis. On peut mélanger les cartes, on peut se tester, on peut ensuite mettre de côté celles qu'on a assimilées et ne réactiver que celles sur lesquelles on a un peu plus de mal. C'est vraiment un outil hyper ludique et très flexible.
Sébastien Martinez.
Alors, pour rebondir, c'est que le flashcard, c'est top. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, on peut le faire en famille, entre amis. Mais moi, j'ai même des élèves qui poussent vraiment. Il m'a fait un tuto, il m'a expliqué comment il est fait. Il a créé 11 500 cartes dans sa première année de médecine. Donc, il a vraiment poussé le truc très loin avec un logiciel qui s'appelle Anki. Et voilà, s'il si y en a qui s'intéressent, voilà, ça dure plus d'une heure, où il décortique comment il fait, c'est sur mon site Sébastien Martinez.
Point com. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été notre invité, Sébastien Martinez. Et je rappelle le nom de votre bande dessinée, Mémoire de Roi, dans laquelle vous développez votre méthode.
Avec Mathieu Burnia, c'est ça. Et hyper important quand même, l'association des sports de mémoire, as-mémoire.fr. Si vous voulez nous rejoindre, on est une communauté d'athlètes et on s'entraîne en ligne.
Et devenir champion olympique de mémoire. Ouais. Merci beaucoup à vous aussi, Hélène Weber. Je rappelle le titre de votre livre, Objectif mémoire, au lycée, à l'université. Retenez et comprenez plus facilement tout ce que vous apprenez. C'est paru chez Erol Poche. Et votre site internet aussi, donnerdusens.fr. On retrouve des ressources en ligne pour se tester et découvrir les grandes méthodes d'apprentissage. Juste avant de se quitter, on écoute Johan Papakonstantino sur RFI.
T'es la glace, je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal amende tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle, mais ça vole pas haut. Je pourrais pas vous dire ce qu'il se passe. C'est mon moment de psy qu'on me dépasse. Elle m'emmène en bateau, fait boire la tasse. Laisse à la surface. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal l'amende tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle mais ça vole pas haut. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal l'amende tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle mais ça vole pas haut.
C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Zainaba Diallo, Divine Berthoud, Damien Roucou, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi et Lucien Bissinguet. Demain, c'est l'historien Fabrice Delmeda qui sera notre invité. Il signe un livre enquête sur l'histoire des riches, les très grosses fortunes du monde et leur influence sur nos vies. À nous, à demain, même heure, sur RFI.